Edgar Wallace, Les Terribles, chapitre 1. Comme Harry sortait enfin de la prison de Dartmoor, qu'il avait hébergé pendant près de 7 ans, il dut faire viser ses papiers de levée d'écrou à la station de police de Burton. Alors qu'il échangeait quelques mots avec le sergent, son regard rencontra celui de l'inspecteur Long, qui se trouvait là par hasard. Ses yeux flambèrent d'une lueur mauvaise dans son visage aminci. Il eut une crispation des lèvres et il dit « Alors, inspecteur, toujours debout ?»« Oui, d'attaque !» L'inspecteur Arnold Long avait répondu gaiement. Il ajouta « Oh, si j'avais le choix !» Au lieu de vous libérer, je vous enverrai dans une chambre asphyxiante avec les chiens enragés. Harry était notoirement un individu dangereux. Long aussi était un garçon avec lequel il fallait compter. La conversation se poursuivit encore un instant. « Oh, inspecteur, je n'ai garde de vous menacer. Je ne tiens pas à retourner si vite dans l'horrible endroit d'où je sors. Mais je vous préviens, faites attention. »« Vous parlez trop. Un de ces jours, on vous verra au Parlement. » La réponse avait fait rire le sergent du poste, mais Harry avait froncé le sourcil. Il essaya à son tour de l'ironie. « Oh, vous êtes tous très habiles, et les gens comme moi sont faciles à attraper. Mais pourquoi ne prenez-vous pas Shelton ? Tous les flics d'Angleterre sont après lui, même les amateurs. » Long était un professionnel conscient de sa valeur. Il ne répondit pas à la remarque. Clay Shelton ne l'intéressait pas pour l'instant. Cependant, il devait bientôt découvrir en rentrant à Scotland Yard que ce personnage n'était pas sans importance. Depuis 15 ans, Clay Shelton forgeait et émettait des lettres de crédit et des traites pertinemment fausses. 15 ans! Dans un pays où la police est active, c'est long. Clay Shelton. Ce nom suffisait à évoquer l'affaire de la Banque d'Afrique, où un certain colonel Hervey, soi-disant de l'intendance, avait pris 25 700 livres. À vrai dire, le policier de la banque était douté de quelque chose. Il avait suivi le colonel jusqu'à Wimberg. C'est dans un bois de pins, tout près de cette ville, qu'on trouva le pauvre diable d'inspecteur poignardé. Clay savait se protéger quand il le fallait. Combien d'autres affaires, celle de la banque de Portsmouth, celle de Midland et Western, et chaque fois un autre nom et une tenue différente. Quand Long arriva à Scotland Yard, l'inspecteur Wanita venait d'avoir une entrevue avec son chef. Celui-ci secoua sa tête blanche avec un air de mécontentement. « Long, dit-il brusquement, n'avez-vous pas dit hier que vous connaissiez par cœur les records de Shelton ?»« Oh, donnez-moi 3 mois et j'enverrai votre homme dans un lieu où le régime est régulier. » fit l'inspecteur en souriant. Le chef regarda son subordonné, eut un plissement des yeux et dit très doucement après avoir réfléchi. « Eh bien, je viens de retirer l'affaire à Vanita. Prenez-la. Je vous donne les 3 mois que vous demandez, mais à votre place, je serai moins sûr de moi. » Il avait parlé sévèrement, mais Ses yeux s'éclairèrent de sympathie en regardant l'oncle s'éloigner. Long était un ancien universitaire, fils de millionnaire et simple policier. Pourquoi? Oh, ce serait une histoire un peu longue à conter. Disons seulement qu'un jour, le fils de Sir Godley avait été envoyé de Cambridge pour s'être battu victorieusement contre un fonctionnaire hautement protégé. Son noble père l'avait alors prié d'aller où il voudrait gagner sa vie à sa guise. Ajoutons qu'ayant rencontré son fils revêtu d'un uniforme d'officier de police, quelques mois plus tard, Sir Norbert avait conçu un certain orgueil de cette excentricité dont il parlait depuis avec complaisance. Scotland Yard n'avait pas tardé à apprécier l'intelligence et l'énergie d'Arnold Long. Ce qui ne veut point dire que les méthodes souvent particulières de ce dernier ne fussent point discutées. Arnold mesurait 1,70 m et donnait l'impression d'être plutôt maigre. Il pouvait courir comme un lièvre, mais sa subtilité ne l'abandonnait pas au plus fort de la vitesse. Ajoutons qu'il s'apparentait au chat par la sensibilité et qu'il avait gardé pendant 2 ans le titre de champion de boxe amateur. Avec tout cela, il appréciait la vie autant qu'une bonne plaisanterie. Lorsque 2 ans plus tôt, la bande de Limehouse le capturait et lui donna 5 minutes pour se préparer à quitter cette vallée de larmes, le sourire qui ne l'abandonnait jamais s'élargit et il dit « Oh, je parie 1000 livres que vous ne me tuerez pas !» Ils ne le tuèrent pas. Il nagea pieds et mains liés pendant 2 kilomètres et quand on le sortit à moitié gelé de la Tamise, c'était au mois de janvier et la rivière était pleine de glace, ses premiers mots furent « Les aurai avant 24 heures !» Et il les eut. Tel était ce garçon, il aimait à parier et il gagnait souvent ses paris. En quittant son chef, il alla se mettre en rapport avec le président de l'association des banques. Chapitre 2. Un beau matin de printemps, M. Clyde Shelton se promenait dans Lombard Street, où la plupart des grandes banques londoniennes ont leurs immeubles. Il marchait doucement en balançant son parapluie. Il s'arrêta devant une maison dont la façade de granit alignait des rangées monotones de fenêtres et se renseigna auprès d'un policeman qui lui répondit « C'est la Southern Bank. » Le regard de Shelton sembla aussitôt s'emplir de respect. Une voiture arrivait dont 2 dames descendirent, une jolie jeune fille et une femme plus âgée. Un assez beau garçon, portant monocle et moustache, les accompagnait. Tous 3 entrèrent dans la banque tandis que le policeman interpellait le chauffeur. « Si vous devez attendre plus de 5 minutes, circulez ou parquez-vous. » Shelton restait là, musant comme un touriste en promenade. À ce moment, un taxi s'arrêtait derrière la première automobile. Le jeune homme, qui mit pied à terre, donna un regard à l'homme au parapluie, au policeman qui ébaucha un salut, et pénétra à son tour dans la banque. C'était Arnold Long. En passant devant les guichets, il remarqua aussitôt un visage charmant, mais il n'avait pas de temps à perdre. Il entra vivement dans le sanctuaire du directeur général, un petit homme replet, au crâne chauve, qui se leva pour lui serrer la main. Une minute seulement, monsieur Long, le temps de voir un client. Il sortit et revint au bout d'un moment, un sourire sur sa face joviale. Ah, c'est une femme de caractère. L'avez-vous remarqué? Oh, je pensais qu'elle était plutôt jolie. Arnold songeait à la jeune fille dont sa mémoire conservait le profil. Mais c'est à la vieille qu'allait l'admiration du directeur. Oh, elle est ma cliente depuis près de 30 ans. Je m'étonne que vous ne la connaissiez pas. Le jeune homme qui les accompagne est son homme d'affaires. Peut-être un peu snob, mais c'est un de nos futurs maîtres du barreau. Un panneau vitré permettait aux deux hommes de voir les trois personnages dont ils parlaient. La dame âgée vérifiait un paquet de banquenotes qu'on venait de lui remettre, tandis que sa jeune compagne considérait distraitement le plafond sculpté de la banque. Il y avait dans ses traits un mélange de distinction et de vitalité qui arrêtait l'attention. Tout à coup, ses yeux rencontrèrent ceux d'Arnold Long. Ainsi, séparés par la vitre, les deux jeunes gens se regardèrent avec un soudain intérêt. Elle se détourna la première et Long prit alors conscience que le directeur lui parlait. Oui, « cet homme est comme une anguille. Oh, je crois bien qu'on ne l'attrapera jamais. Mon opinion est qu'il fait partie d'une bande extrêmement habile. » Oh, je le voudrais bien, dit le policier en souriant, mais je crois que cet homme est seul. C'est d'ailleurs sa grande force. Le directeur avait tiré d'un tiroir un portefeuille dont il extrayait des papiers. Ben voici tout ce qui se rapporte au vol, comme mis ces derniers temps dans toutes les banques de Londres. Tenez, voici une belle collection. Deux signatures originales. Long examina le dossier pendant une demi-heure. Tous les M sont semblables, murmura-t-il. Bon, c'est la lettre de l'alphabet qui a le moins de caractère. Pas d'empreinte digitale? Oh, jamais! La main gauche qui tenait le document en place était invariablement gantée. Long acheva son examen sans mot dire, puis il prit congé. Au coin de Lombard Street et de Great Church, il retrouva l'homme au parapluie, absorbé dans la contemplation du défilé des voitures. Long passa près de lui et eut le sentiment que l'étranger l'observait. Oh, cela dura l'espace d'une fraction de seconde. Deux yeux gris avaient dit clairement « Vous connaissez, vous êtes un policier. » Arnold avait éprouvé un petit choc dont il s'expliquait mal la raison. Il perdit volontairement un peu de temps à acheter un journal et à attendre la monnaie. Il songeait. Oh, c'est un escroc de la cité, un des soldats de cette armée qui vit d'aventure et de risque. Il eut même l'intention d'engager la conversation. Mais il appartenait à Scotland Yard, et la cité possède ses propres détectives. pas d'empiètement. Cependant, comme l'autre se décidait à arrêter un taxi, lui-même en fretta un, hein, il donna à son chauffeur l'ordre de suivre la première voiture. À plusieurs reprises, Long put remarquer que celui qu'il pistait ainsi l'observait à la dérobée à travers la vitre. Enfin, il abandonna cette vaine poursuite, mais le soir, quand il rencontra son chef, il s'écria en arborant son plus enthousiaste sourire : Croyez-en ce que vous voudrez, colonel. J'ai vu Shelton. Une semaine plus tard, le Dick Clay Shelton traversait la triste petite ville de Chelmsford lorsqu'il éprouva soudain une atroce impression qui le priva pendant une seconde de respiration. Sa voiture longeait à ce moment un mur rougeâtre. Shelton caressa la moustache blanche à laquelle il donnait tant de soins depuis 6 mois. Cet endroit, la prison de Chelmsford, il devait l'avoir vu jusqu'ici, sans se représenter exactement ce que c'était. Il arrêta son automobile pour voir passer 4 hommes enchaînés et accompagnés de gardiens. « fit Shelton à mi-voix. « Voilà un lot de forçats pour Dartmoor. Ils sont à Londres à temps pour le train d'une heure. » Il fit demi-tour et revint vers Chelmsford, où il arrêta sa voiture. Il descendit alors et entra dans la boutique d'un libraire où une petite pancarte annonçait qu'on se chargeait des annonces pour les journaux. Un seul employé se trouvait là, un remplaçant sans doute, qui hésita avant de trouver la formule que réclamait Shelton. « Tenez, fit-il enfin celui-ci, voici une annonce pour le Times. » L'employé prit l'argent et plaça négligemment la feuille de papier entre les pages d'un livre qu'il lisait, disant tout de suite qu'il devait l'y oublier. Il est de ces hasards imprévus qui dérangent les plans les mieux établis. Shelton était sorti de la boutique, le cœur plus léger. C'était là un sentiment prématuré. Il retrouva sa voiture, la conduisit dans une rue écartée et tira une petite valise dissimulée sous le siège. Un quart d'heure plus tard, il descendit sous l'aspect d'un clergyman vieillot et s'en fit attendre un tramway qui le mena dans le centre de la ville. 10 heures sonnaient quand il pénétra dans les bureaux de la Eastern Bank, où on lui remit 7 000 livres contre un chèque parfaitement en règle et signé « Colonel Wilbur Levy ». M. Shelton mit dans sa poche de côté les billets qu'il venait de recevoir. Il y avait alors auprès de lui 3 hommes. Il y avait alors auprès de lui 3 hommes. Le premier était un gentleman à l'air ennuyé qui s'appuyait sur le comptoir, et Shelton ne le regarda pas. Mais son attention fut attirée par l'un des 2 autres qui tournait le dos à la porte, souriait en montrant ses dents blanches et qui s'écria tout à coup « Bonjour, Shelton !» C'était l'inspecteur Harold Long. L'interpellé avait blêmi. Vous désirez me parler? Mon nom n'est pas Shelton. Arnold secoua la tête, enleva son chapeau, passa ses doigts à travers ses cheveux noirs. Oui, je désire vous parler, dit-il. C'est alors que Shelton sauta sur lui, et une seconde après, trois hommes étaient à terre se débattant. Shelton se dégagea, se releva. Le second policier ne faisait que gêner Long dans ses mouvements. À ce moment, l'homme au visage ennuyé entra dans la mêlée et essaya de prêter secours aux inspecteurs. Tout à coup, une explosion retentit et le deuxième policier s'abattit. À bas le revolver ou je tire? Shelton se retourna vers la voix. Le clerc à lunettes, le visage zé avec un lourd revolver de l'armée, et sa main ne tremblait pas. Oh, il n'y avait pas longtemps qu'il y avait eu une guerre, et les employés de banque avaient appris à tuer avec une grande nonchalance. Long profita de ce moment pour passer les menottes au poignet du faux clergyman. Je vous arrête pour fraude, dit-il. Et il ajouta, en regardant le corps qui gisait à terre. Oh, vous croyez que vous ne portiez jamais de revolver? Shelton ne répondit rien. Le détective se tournait maintenant vers l'étranger qui était intervenu. Merci, monsieur, je vous suis très obligé. N'êtes-vous pas monsieur Crowley? Le visage de cet homme distingué était couleur de craie, et sa moustache tombait de chaque côté de sa bouche d'une façon pathétique. J'ai fait de mon mieux, dit-il. Il regardait l'homme à terre. Est-il mort? Oh, hélas, je le crois, dit Long. J'aurais voulu que vous ne fassiez pas ça, Shelton, mais il sera plus facile de prouver ce meurtre que les autres. Le groupe sortit par une cour qui se trouvait derrière la banque et qui conduisait à une rue étroite où un taxi et deux policiers attendaient. Le prisonnier fut poussé dans la voiture. Shelton avait vu, quelques heures plus tôt, des hommes pareillement enchaînés et conduits sans ménagement au sortir de la prison de Chelmsford. Ah, cela lui semblait dater de plus d'un siècle. Chapitre 3. Le 14 juin, l'inspecteur Arnold Long quitta Londres à 5 heures par un matin délicieux. Le soleil brillait sur tous les petits jardins, les routes n'étaient parcourues que par de rares charrettes, et il arriva à Chelmsford avant qu'aucun magasin fût encore ouvert. Long avait traversé le petit village et se hâtait sur la route droite qui courait entre des champs quand il passa devant un homme assis sur une barrière. Il le reconnut et, freinant, fit marche arrière. L'autre restait immobile, une cigarette entre les lèvres, et il rendit un coup d'œil étonné du policier, un regard sans aucun embarras. Bonjour, Harry. Vous voilà donc devenu agriculteur. Est-ce que je gêne quelqu'un? Êtes-vous sans emploi? La physionomie de Harry prit une expression étrange. Non, non, si vous désirez le savoir, j'ai du travail et du bon. Et vous, toujours la chasse à l'homme? Long sourit. La chasse au voleur, Harry. Il regarda autour de lui les champs déserts. La seule construction que l'on pouvait voir était une énorme grange. « Je parie que vous n'avez pas dormi dehors et que vous n'avez pas marché très loin. Il n'y a point de poussière sur vos chaussures. Voyons, Harry, quel est le chef ? Harry fit une grimace et ne répondit pas. Le policier se garda d'insister. Il se remit en marche après un signe de la main et arrêta sa voiture devant les sombres portes de la prison de Chelmsford, juste comme l'horloge sonnait 7 heures. Le gouverneur était seul dans un petit bureau. Ni le shérif ni aucun autre magistrat n'était encore arrivé. Espérons que cette entrevue ne va pas être trop pénible, dit le gouverneur. Arnold secoua la tête. Tout le long de la route, je priais pour qu'il changeât d'idée et refusât de me voir. Oh, je ne pense pas. La dernière question qu'il m'a posée hier soir fut pour s'informer de vous. Oui, je lui ai dit que j'avais fait parvenir sa demande à la préfecture et que j'avais reçu en réponse un télégramme me disant que vous seriez ici ce matin. Les deux hommes quittèrent alors la pièce et, à travers les couloirs de la prison, marchèrent jusqu'aux cellules. La porte de l'une d'elles, où veillait un gardien, était entr'ouverte. « Attendez !» dit le gouverneur en entrant le premier. Il sortit au bout d'un instant et fit signe à Long. Le cœur battant un peu plus vite que d'habitude, le détective pénétra alors dans la chambre des condamnés à mort. Shelton était assis sur son lit, les mains dans les poches, en manches de chemise et sans col. Son visage était couvert d'une barbe grise. Long ne l'aurait pas reconnu. « Asseyez-vous, Long, » dit le condamné. « Je désirais vous voir avant de partir. » Long restait debout. L'autre avait allumé une cigarette et faisait des ronds de fumée, les regardant monter jusqu'à ce qu'ils atteignissent le plafond de pierre. « J'ai tué 4 hommes et je ne l'ai jamais regretté, » dit-il lentement. « D'abord un policier attaché à une banque à Carlix, un directeur à Bombay. Bon, celui-là, je n'avais pas l'intention de le tuer, mais le coup que je lui avais porté fut mortel. Puis il y a eu le cas Crowley. Que voulez-vous ? Il m'a suivi jusqu'à ma péniche. » Oh, ce fut plutôt une vilaine affaire. Vous le trouverez enterré entre 2 grands peupliers à Benalbalbabaye. Arnold, silencieux, attendait. Bon, je ne vous parlerai pas du 4e, reprit Shelton. C'est une affaire singulièrement désagréable. Que vous connaissez bien. Il sourit à la figure sévère du détective qui ne le quittait pas des yeux. Et maintenant, vous croyez que je vais payer? Vous vous trompez. Ils me pendront, ils m'enterreront, mais je vivrai. Et je vous aurai, mon ami Long, comme j'aurai chacun de ceux qui ont provoqué ma mort. Puis, voyant l'expression qui passait sur le visage de l'autre, il rit doucement. « Vous croyez que la chaleur me rend fou, voyez-vous? Il y a des choses dans ce monde que votre philosophie ne s'imagine guère, mon cher. Et la main du forçat est une de celles-là. » Son regard tomba sur le carrelage. Il fronça les sourcils et rit à nouveau. Eh bien, c'est tout, dit-il brusquement. Je suis sûr que vous vous souviendrez, monsieur Long. La main du forçat sortira de la tombe et vous saisira tôt ou tard. Long ne répondit rien. Il rejoignit dans le grand hall le gouverneur. Que pensez-vous de cela? Demanda celui-ci en s'essuyant le front. Il était assez pâle et les deux hommes échangèrent un adieu presque silencieux. Chapitre 4. Près de Chelmsford, dans un petit village sur le cadran de la vieille église, Long vit la grande aiguille s'approcher de l'heure. Il arrêta sa voiture et enleva son chapeau quand les tintements se firent entendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que Dieu ait son âme, murmura-t-il. Il savait qu'à cette seconde, même l'âme de Quilty Shelton était passée dans l'éternité. À ce moment précis, quelque chose frappa son pare-brise qui vola en éclats. Une deuxième balle enleva son chapeau et il sentit le vent d'une troisième sur ses lèvres. D'un bond, il sortit de la voiture, regarda autour de lui le paysage calme et souriant. Personne en vue. Rien qu'une petite meule au-dessus de laquelle s'élevait un peu de fumée. Il courut à travers la prairie qui le séparait de cette meule, et tout en courant, il entendit un quatrième coup de feu. Il s'aplatit par terre, il se releva et reprit sa course, mais cette fois en zigzag, à droite et à gauche. Alors il vit quelque chose qui lui coupa la respiration. Au-dessus des grandes herbes, près de la meule, une main blanche, les doigts convulsés, essayait de saisir le vide. En une seconde, il arrivait à cet endroit. Un homme était couché sur le dos, la main levée vers le ciel. À côté de lui était un fusil militaire que l'autre main serrait avec une dernière crispation. Arnold reconnut le visage. C'était Harry. Il se pencha sur lui. Il était mort. Chapitre 5. Arnold Long fixait ce visage, croyant à peine ce qu'il voyait. Un examen rapide lui indiqua bientôt comment le forçat avait été tué. On l'avait abattu de très près, par derrière. Le canon du fusil était encore chaud. Il restait une cartouche. Quelques mètres plus loin se trouvait la meule derrière laquelle le détective découvrit un fossé assez creux conduisant à une route défoncée. Là, aucun signe de vie, mais la route tournait brusquement quelques mètres plus loin. Elle remarquait des traces de roues sur la poussière blanche. Arnold remonta vers l'endroit où le mort gisait, et il se penchait une fois de plus sur lui quand il entendit le bruit d'une motocyclette. Il put apercevoir la tête casquée de cuir du conducteur qui se dirigeait du côté où le policier avait laissé sa voiture. Celui-ci se dressa et fit signe au motocycliste de s'arrêter. L'homme, quel qu'il fût, l'avait certainement vu, mais il ne changea pas l'allure, bien qu'il parût ralentir alors qu'il passait près de la voiture. Quelques secondes plus tard, il n'était plus en vue. Arnold regarda autour de lui, cherchant du secours. Les coups de feu avaient certainement été entendus. À quelque distance se trouvait un hangar noir qui lui semblait familier. C'était à cet endroit même que ce matin il avait rencontré Harry. Il n'y avait rien d'autre à faire qu'aller chercher de l'aide au village. Arnold Long était à peine à moitié du chemin quand il vit une flamme s'élever brusquement là où il avait laissé sa voiture. Il y eut une explosion assourdissante. L'air fut peuplé de morceaux de bois et de métal. Arnold s'arrêta net et se mit à courir en arrière. Sa voiture n'était plus qu'un tas de ferraille fumante. Par bonheur, un policier à bicyclette suivait la route à ce moment. Il avait entendu l'explosion, et penché sur son guidon, il se hâtait. Il sauta de sa machine en arrivant à la hauteur d'Arnold. « Qu'est-il arrivé à votre voiture ? Explosion ?»« Oh, elle a certainement sauté, et ce qu'il y a de plus certain, c'est que je ne vais pas me préoccuper de la bombe. »«
La bombe ?»
s'écria le policier du village. La perte de sa voiture était sans importance pour Arnold. En quelques mots, il expliqua l'événement au policier et le guida vers le cadavre. Il y avait des traces de voiture sur la route défoncée, dit-il, mais à moins que nous n'ayons un aéroplane, je doute que nous puissions rattraper les deux gentlemen qui sont responsables de cette petite surprise. Il était 5 heures lorsqu'il rentra à la préfecture pour faire son rapport. Le colonel s'étonna grandement. Mais la chose est inexplicable. Shelton a été pendu à 8 heures. Il n'y a pas de doute qu'il était mort quand ce nouveau drame a eu lieu. Chef, nous sommes certainement en lutte contre les terribles. Le colonel fronça les sourcils. Je vous comprends pas très bien, dit-il. Shelton travaillait seul, il ne faisait partie d'aucune bande. Autant que nous pouvons le savoir, il n'y a personne au monde qui s'intéresse suffisamment au destin de cet homme pour se préoccuper de le venger. Pensivement, Long se mordit les lèvres. Écoutez, dit-il, je ne crois pas à la fameuse main du forçat, et toutes ces choses surnaturelles ne me troublent pas une seconde. Mais il va y avoir des ennuis, de gros ennuis. Je ne sais pas d'où cela viendra, mais la lutte sera dure et sanglante. Les terribles ne resteront pas tranquilles. Ils se sont servis d'Harry, sachant que celui-ci était un excellent tireur. Ils espéraient ainsi me faire mon affaire alors que je revenais de Chelmsford. Et quand ils virent qu'ils avaient manqué son but, ils le tuèrent. Et je crois bien que s'il n'avait pas manqué le but, ils l'auraient tout de même tué. En acceptant ce vilain travail, Harry s'était marqué pour la mort. Pendant les mois qui suivirent, Arnold trouva un nouvel intérêt à la vie. Sentant le danger qu'il courait, ayant la certitude qu'une organisation redoutable existait derrière le forçat que l'on avait toujours cru seul, il donnait à son pas une nouvelle élasticité, un nouvel éclat à son regard. Il avait pu suivre la trace d'Harry depuis sa sortie de prison. Il avait interrogé les gens avec lesquels le forçat s'était trouvé en contact, mais personne ne pouvait lui donner la plus petite indication relative à ce qui l'avait employé. L'année qui suivit fut épouvantable. Les événements se suivirent méthodiquement, sans qu'un mot en fût dit dans les journaux. Seuls les sombres bâtiments de la police entendirent parler de ces drames successifs, et le secret dont dépendait l'issue de la lutte fut bien gardé. Des personnages bien connus du public londonien disparurent sans que la presse, stylée à cet effet, s'en mêlât. La main du forçat accomplissait sa tâche avec une habileté diabolique. C'est alors que le destin apporta à Harold Long un nouveau sujet d'intérêt, plus poignant encore, une sorte de crainte qu'il n'avait jamais eu l'occasion de connaître. Ce sentiment fait de douceur anxieuse était lié dans son esprit à un visage. Il éprouvait chaque fois qu'il évoquait les traits harmonieux de la secrétaire de Mademoiselle Revelstoke. Chapitre 6. Mademoiselle Revelstoke était une femme âgée, mais dont les manières et la façon de vivre n'avaient rien gardé de l'ancien temps. Elle appréciait les concerts de TSF. Elle se décida à acheter une automobile le jour où il lui fut prouvé que sa voiture pouvait garder sans faiblir une vitesse moyenne de 90 à l'heure. C'était une femme grande, au visage arrondi et jaune. Ses yeux ne livraient rien de sa pensée, et sa secrétaire, Mademoiselle Nora Sanders, ne pouvait formuler aucune critique au sujet de son caractère, chose remarquable de la part d'une femme qui emploie une demoiselle de compagnie. La grande maison qu'elle habitait constituait le cadre le plus convenable à une femme aussi parfaite. L'extérieur majestueux, selon l'époque de la reine Victoria, le lourd porche soutenu par des colonnes, les marches conduisant à une vaste porte de bois poli, les rideaux de couleur marron, les bacs fleuris à chaque fenêtre, les deux arbustes qui encadraient la porte d'entrée, tout annonçait Mademoiselle Revelstoke. Le lecteur s'imagine aisément les canapés aux coussins de crin, les glaces aux cadres dorés, les tapis aux guirlandes de roses. Un jour d'été, Mademoiselle Revelstoke était assise à son bureau. Elle écrivait une adresse de son écriture nette. Elle colla l'enveloppe avec une petite éponge, la ferma soigneusement et la tendit à sa secrétaire. « Vous trouverez en M. Bankford un personnage assez amusant, » dit-elle. Il a la bonne humeur particulière aux hommes de sa corpulence. Les hommes un peu gras sont rarement mélancoliques. Mais ce paquet n'est-il pas trop lourd pour vous ? » Nora souleva le paquet, le trouva beaucoup plus léger qu'elle ne s'y attendait. « Il est probable qu'il vous invitera à prendre le thé. Je dînerai donc à 9 heures, une demi-heure plus tard que d'habitude. » « J'ai invité Maître Henri et je suis sûr qu'il ne me pardonnerait pas votre absence. » La dame continuait ses recommandations. « Dites à Bankford qu'il est inutile d'écrire et de remercier. C'est de bon cœur que je lui offre cette horrible négresse. Je le verrai à Little Yates la semaine prochaine. Vous retiendrez l'appartement. » Un taxi amena Nora à la gare de Paddington sans qu'elle se doutât qu'une étrange aventure commençait ainsi pour elle. Elle prit fort tranquillement son billet de 3e aller-retour pour Marlow-on-Thames. C'est dans cette petite localité riveraine qu'elle devait faire connaissance à la fois avec les terribles et avec Arnold Long. Tout à la joie de sa promenade dans la campagne, Nora arriva à Marlow et s'adressa au batelier pour s'informer de la villa de M. Bankford. « Vous ne pouvez pas la voir d'ici, » dit-il. « Il faut suivre ce sentier jusqu'à ce que vous aperceviez une maison rouge avec des cheminées contournées. » Le batelier regardait avec plaisir son interlocutrice. Nora avait une beauté délicate, fragile, avec des lèvres bien dessinées, des yeux d'un gris souriant.
Elle portait un petit chapeau de feutre noir, sans aucune garniture, un costume bleu d'une coupe simple et cependant très féminine. Tant de souplesse et de grâce se dégageaient de la jeune femme que les yeux de l'homme la quittaient difficilement. Il prolongeait les explications. Ce serait très long par la route, dit-il, voulant ainsi faire apprécier le service qu'il rendait. Il vous faudrait traverser le pont, prendre un second sentier à votre droite, là où se trouve le monument aux morts. Oh, décidément, il vaut mieux que je vous traverse. Vous êtes très aimable, dit-elle avec une jolie voix au timbre doux et gai. Il pensa qu'elle était la femme de quelque gentleman de Londres, car bien qu'ayant une grande apparence de jeunesse, il y avait dans son allure de la décision et de l'assurance. En réalité, Nora avait 22 ans, et l'idée du mariage ne l'inquiétait guère. Mais depuis longtemps, elle ne s'était pas sentie aussi bien disposée. Être la secrétaire d'une vieille femme de 60 ans et écouter tous les jours des propos philosophiques plus ou moins amers, cela n'est pas drôle à la longue. Il arrivait souvent de rêver qu'une situation dans une grosse affaire lui donnait à la fois l'aisance et l'indépendance. Alors que le passeur cherchait ses avirons, elle laissait errer ses regards sur la rivière. Le paysage était plaisant, reposant. Le son des cloches de l'église de Marlowe, le bruit cadencé d'un canot de course, ajoutaient une sorte de musique à la mélodie de cet après-midi d'été ensoleillé. L'homme approcha son bateau de façon à ce qu'elle y pût entrer facilement, et il bavardait tout en ramant. Voyez-vous cet endroit? Oh, c'est le trou le plus creux de la rivière. Ici trouve une truite dont elle dit qu'elle a plus de 30 ans. Bien des jeunes gens ont essayé de la prendre. Elle se moque d'eux. Jamais aucun poisson n'a aussi bien profité des appâts. Oh, si vous voulez, vous pouvez la voir à 8 heures moins le quart. C'est le moment où elle prend son repas. Poliment, elle semblait s'intéresser au monologue de son conducteur. Celui-ci désignait un bateau amarré. « Tenez, c'est le Northward qui appartenait à Shelton. » Elle interrogeait du regard. « Oh, vous ne connaissez pas Shelton? Mais c'est lui qui fut pendu pour avoir tué un policier. Oh, c'était le plus terrible forçat du monde. Vous lisez donc pas les journaux ?» Elle se retourna pour examiner la péniche tragique. L'autre poursuivait. Vous liriez cela dans un roman, vous ne le croiriez pas. C'était son bateau, et juste au tournant, voilà la maison de M. Monkford. Shelton avait eu là un petit bungalow où il vivait seul. Son bateau à moteur enfermait une petite presse d'imprimerie d'où étaient sorties les fameuses lettres de crédit qui ont mis sur les dents les financiers des deux continents. Tout cela avait été imaginé et fabriqué dans la cabine du Northward. Et le batelier continuait inlassablement. Et quand Shelton fut pendu, son bateau a été vendu à un homme qui le revendit à son tour. Et il expliquait en détail les avatars du Northward. Nora lui demanda quel rapport tout cela pouvait avoir avec le gentleman chez qui elle se rendait. « Mais c'est M. Monkford qui a fait prendre Shelton. Lui et monsieur Long, le célèbre policier. Il est là aujourd'hui, je l'ai vu, qui ramait dans sa petite barque cet après-midi. Nora savait que Monkford était un membre notoire de l'association des banques. Mary Verstock, Miss Verstock l'avait connu alors qu'il était directeur de la Thousand Bank, et c'est chez lui qu'elle avait son compte. Monkford, qui possédait un grand sens de la finance, avait été nommé depuis directeur général. Oui, oui, continuait l'autre. C'est lui et Long qui ont fait arrêter Shelton. Long allait lui mettre la main au collet quand Shelton sortit un revolver et tua un policier nommé Lancy. Un peu plus, il tuait Long aussi bien, mais vraiment, mademoiselle, vous n'avez jamais entendu parler de cette affaire. Il y a cela un an seulement. Nora secoua la tête. Elle ne lisait jamais les faits divers. C'était un des grands reproches que lui faisaient les amis de mademoiselle Revelstock. Maintenant, on apercevait la maison, une vieille construction du temps d'Élisabeth, en briques rouges d'un ton triste. Elle se dressait au milieu d'un bouquet de peupliers et une large pelouse verte la séparait de la rivière. Le passeur tira vigoureusement sur l'un des avirons et le bateau glissa vers le ponton d'accostage. L'eau était peu profonde et Nora put voir sur le sable sans herbe une petite bande d'alevins qui se chauffait paresseusement au soleil. Sur la pelouse, deux pêcheurs étaient installés. Ils regardèrent débarquer la jeune fille et la surveillèrent d'un air indifférent, puis ils retournèrent à la contemplation de leurs bouchons flottants. Nora prit le paquet dont elle était chargée et voulut tendre quelque chose au batelier qui refusa en repoussant son bateau au large. « Monsieur Monkford vous ramènera, mademoiselle » cria-t-il de loin. Nora sourit gentiment, ce que l'autre considéra comme le meilleur des pourboires. Puis elle marcha vers la maison à travers les allées soigneusement ratissées. Chapitre 7. L'entrée faisait face à la rivière. Un valet de pied prit le paquet et introduisit Nora dans le hall. « Monsieur Monkford reçoit une visite, mademoiselle, » dit-il en ouvrant la porte d'un petit salon. « Mais il ne tardera pas. » En effet, avait-elle fait ce pas que Monkford paraissait. C'était un homme petit de taille, assez gros et presque chauve. Elle ne put s'empêcher de penser que c'était un visage assez curieux pour personnifier la vengeance qui avait atteint l'infortuné Shelton, que cette face joviale, rouge et adornée de lunettes. « Entrez donc, mademoiselle Sanders, car je suppose que c'est bien Miss Sanders que j'ai le plaisir de recevoir. Mademoiselle Revelstock a donc pu obtenir cette statue pour moi, c'est magnifique. » Miss Revelstock et son banquier partageaient la même passion, la collection des antiquités romaines. « Entrez, entrez !» Oh, ce paquet devait être très lourd. Si j'avais su, je vous aurais envoyé la voiture. Tenez, je suis charmé que vous rencontriez un de mes amis. Un des meilleurs, oui, un des meilleurs. C'était une de ses habitudes de répéter ces mots, et en particulier la fin de ses phrases. Nora considérait avec amusement cet interlocuteur plein de vitalité et dont il radiait une réelle joie de vivre, un appel immédiat à la sympathie. « Donnez-moi votre parapluie. Mais quelle idée, un parapluie par un jour comme celui-là !» Elle suivit son hôte dans la grande bibliothèque qui prenait vue sur le fleuve, et près d'une fenêtre, elle vit, regardant paisiblement la pelouse, un homme qu'elle avait déjà rencontré ailleurs. Elle le reconnut aussitôt et elle vit qu'il la reconnaissait aussi. « Mademoiselle Sanders, Monsieur Long. » Le nom lui semblait familier. Elle ne put le situer sur le champ, puis elle se souvint de l'histoire racontée par le batelier. « Shelton à la pendaison. » Arnold regardait Nora et son regard l'étudiait trait par trait. Elle sentait cette inspection et pourtant n'en était pas gênée. Elle songeait à la puissance qui se dégageait du jeune homme et la qualité magnétique de ses yeux. Déjà, elle était impatiente de connaître ses origines, sa vie, les détails de son étrange carrière. « Nous allons prendre le thé, » dit Monkford. « L'autre affaire peut attendre. » Long sembla satisfait de cette trêve. Il se retourna vers la fenêtre et continua de regarder les pêcheurs. Nora songea alors à la mission dont elle était chargée. « Mademoiselle Revelstock, vous aurez bien envoyé la statue par la poste, mais je crois qu'elle avait hâte de savoir cet objet entre vos mains. » Le banquier s'empressait de défaire le paquet. Il en dégagea une petite boîte dont il enleva le couvercle avec un coupe-papier. Sa main plongea et retira un petit objet enveloppé dans un tissu d'argent. « Extraordinaire !» fit-il. La figurine représentait un corps nu de négresse qui mesurait 30 cm environ. Long lui-même trouva que la statue avait plus d'intérêt que le paysage et il traversa lentement la pièce, disant « c'est en effet un travail merveilleux !» Monkford exprimait son admiration par des mots décousus. La tête était sculptée dans de l'ébène, droite, le menton levé avec un air de défi. Les petites mains tenaient devant elle une épée d'ivoire. La ceinture autour de sa taille était en métal. Un fourreau vide s'y accrochait et autour de la tête, une mince filet d'or recouvrait les cheveux crépus. « Je ne vois pas l'inscription. Si, sous la base du piédestal. » Montfort retourna la statue. « L'homme, pouvez-vous lire ?» À la grande surprise de Nora, le détective acquiesça. Il étudia l'inscription minuscule et il traduisit « Je suis la mort qui attend au terme de toutes les routes. Les hommes me voient, oublient leur bonheur et tombent immédiatement sur leur épée. Faites attention aux étrangers. Que votre amour de moi ne vous conduise pas aussi à mourir de votre propre main. » Quand Arnold eut fini de lire, Nora sentit son regard s'arrêter sur elle. Monkford riait. « Étonnant, unique. Mais ils en ont une au musée de Cluny, le destin noir. On suppose que cette statue possède toutes sortes de pouvoirs mystiques. Celle-ci est authentique, je le jurerais. Il y en a trois en Europe. » Une en Amérique. Miss Sanders, vous pouvez dire à Mademoiselle Revelstock, je suis un homme fier et heureux. Le destin noir. Les sourcils du parieur se serrèrent et son regard une fois plus rencontra celui de Nora. Soudain, celui-ci lui posa une question qu'elle ne put retenir. Qu'elle formula presque malgré elle. Mais qui était Shelton? Un silence suivit. Nora avait honte de sa témérité. Elle sentit le sang affluer à ses joues. Bon, je suis stupide, dit-elle. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a conduit à poser une question aussi absurde. Monkford avait pâli et ses yeux témoignaient d'une sorte de malaise. Son visage, plein de gaieté tout à l'heure, était devenu tragique. Mais la physionomie du détective n'exprimait que de l'amusement. Shelton était un voleur qui tua un policier, dit-il simplement. Quand je l'arrêtai, il tira sur le sergent qui m'accompagnait. Il a été pendu. Tout en parlant, il regardait son hôte devenu silencieux. Personne n'avait pensé qu'il pouvait avoir sur lui un revolver. Il devint momentanément fou, je suppose. Nous le recherchions pour faux et usage de faux. Oh, il avait soutiré plus d'argent aux banques anglaises et américaines qu'il n'était convenable. Il ne fut pas très facile de le démasquer. Bonfard et moi, nous organisâmes un piège où il tomba. Seul le revolver fut une surprise. Oh, j'aurais dû le tuer avant qu'il ne tirât. Elle sentit qu'il répétait là une histoire souvent racontée et dont le but était d'établir l'irresponsabilité de Monkford. Elle ne comprenait pas pourquoi ce dernier avait besoin d'excuses. Qui aurait songé à accuser ce gros homme de la mort d'un coquin qui avait froidement assassiné un officier de paix? La suite de la conversation devait expliquer ce point. Naturellement, Monkford se rendit malade à cause de ces événements. Il imagine qu'il est désormais le point de mire. « Oh non, parlons d'autre chose !» coupa le banquier. Sa voix trahissait son émotion. Ses mains, qui tenaient encore la statue, tremblaient visiblement. Après le thé, Nora sortit pour se promener un instant. Elle avait une heure à perdre avant le départ de son train, et elle pensait que les deux hommes désiraient être seuls. Elle avait tort. À peine arrivait-elle au bord de la rivière que la voix du policier lui parvint. « Monkford est monté dans sa chambre pour se reposer. »« Mais c'est de ma faute. Pourquoi ai-je fait allusion à ce Shelton ? Je le comprends d'autant moins que je ne m'intéresse pas aux assassins et que je ne m'occupe jamais de leurs méfaits. »« Mais moi, je ne m'occupe que de cela, » répliqua Long en se grattant le nez. « C'est morbide, sans doute. » Elle sentait naître en elle un retour de curiosité. « Mais vous n'avez pas du tout l'air d'un policier ?» Arnold soupira. « J'en suis arrivé à croire que j'en suis bien un mauvais policier. Et pourtant, la première fois que je vous vis, je pensais que j'étais le meilleur livrier du monde. »« Comment avez-vous vu pour la première fois ?» Elle regretta aussitôt cette question, mais il répondait déjà laconiquement « À la banque. » Il poursuivit avec mélancolie. « L'année dernière, j'étais encore un homme au cœur léger. Oh, j'ai maintenant 100 ans. » « Pourquoi ?» Il sortit une cigarette de son étui et dit, en jetant son allumette dans la rivière, « Parce que... Bah, ils vont tuer Monkford la semaine prochaine. Je ne sais vraiment pas quoi faire pour les en empêcher. »